Bonjour à tous.
Bonjour. Donc le livre de Christophe s'articule sur deux figures. Genesis Peerage qui a fait partie de deux formations musicales, qu'on pourra dire du courant expérimental musique industrielle, un peu entre les deux. Le premier c'est Throbbing Gristle et le second c'est Psychic TV. Et William Burroughs, qu'on connaît surtout pour ses écrits. Deux figures particulières qui vont aborder à la fois le mot, le geste, le son, l'identité sexuelle également. On va essayer de voir un peu tout ça dans le temps qui nous est imparti. D'abord, une petite question, vraiment, un point de détail, mais... Aux États-Unis, on garde toujours la première lettre d'un prénom entre du deuxième prénom. Ici, on est en France. Quel intérêt d'avoir conservé le P de Orridge et le S de Burroughs? C'était un choix esthétique ou pour respecter à la lettre, comment on dit aux États-Unis? Parce que ça, voilà.
Alors, j'en sais absolument rien. C'est une très bonne question. William Burroughs, je ne sais pas. J'ai toujours vu ce William S. Burroughs. J'aimais bien parce que... C'était William Seward Burroughs, etc. Orridge, je sais pas. Je l'ai toujours vu écrit comme ça, de cette manière-là. Donc ça m'a pas posé de questions plus que ça. J'essayais à chaque fois qu'il y ait une sorte de, évidemment, de géométrie. Donc qui est la lettre au milieu, ça me paraissait bien comme introduction à cette géométrie, à cette image en miroir, y compris dans les noms. Voilà, ça allait pas plus loin que ça.
Ok. La question inévitable, c'est quel lien tu fais entre ces deux personnes qui appartiennent à deux géographies différentes, deux périodes différentes, quasiment deux disciplines différentes, et est-ce qu'on peut les inscrire l'un et l'autre dans des courants?
Alors, le lien que je peux faire entre les deux, déjà, il y a un lien qui est assez simple, c'est le lien, on a eu l'occasion d'en parler à propos du punk hein, ce matin, mais c'était le lien d'une sorte d'aura rebelle qui est évidemment... à remettre en cause, hein, parce que c'est toujours très facile à chaque fois qu'on vous dit attention, il s'agit de rebelles, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ce genre de personnes, parce que souvent elles sont l'inverse de ce qu'elles prétendent. Ce qui m'intéressait, c'était, et le lien qui était entre les deux, c'était William Burroughs, donc il est connu comme romancier, il a commencé à écrire, le Festin nu, c'est la fin des années 50 qu'il a écrit à Paris, rue Gilles Coeur, enfin il a terminé rue Gilles Coeur. Là où, dans le Beat Hotel, où était resté, par exemple, Anton Artaud, dont on a un peu parlé ce matin. William Burroughs avait un rapport à la musique qui était le rapport d'un amateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a essayé de... Enfin, qui n'a pas essayé, qui a fait des textes, un certain nombre de textes programmatiques sur l'idée qu'il avait d'utiliser le son, les infrasons, par exemple, comme arme révolutionnaire. William Burroughs, c'était quelqu'un qui n'était pas musicien à la base. C'est quelqu'un qui a été très largement récupéré par la musique, y compris par le rock et par le punk. Mais c'est quelqu'un qui s'intéressait assez peu à la musique, à part aux valses viennoises, comme il le dit lui-même. Donc, le lien qu'il y a entre les deux, c'est Genesis Peerage qui est venu après, avec Throbbing Gristle en 1975, qui a décidé justement de reprendre ces textes-là et d'essayer de voir comment lui, qui était musicien, qui s'intéressait à l'expérimentation sonore, et aux infrasons, par exemple, pouvaient réussir à mettre en pratique les idées de William Burroughs, qui jusqu'ici étaient entièrement théoriques. C'était ça qui m'intéressait. Après, il y a toujours des questions de chapelle pour les mouvements. William Burroughs, il est toujours considéré comme l'un des trois fondateurs de la Beat Generation, donc fin des années 50 avec Jack Kerouac et Allen Ginsberg. C'est toujours très compliqué. C'était quelqu'un qui était plus vieux que les deux autres. C'est quelqu'un qui leur a fait lire énormément de romans et d'essais. Il leur a appris en fait Céline particulièrement, qui était quand même quelqu'un d'extrêmement important, qu'ils sont allés voir à Meudon. Et puis, Genesis Peerage, ce qui est intéressant, c'est justement, à la différence de Burroughs, je pense, c'est qu'il arrive à être dans plusieurs mouvements à la fois. C'est-à-dire qu'il est dans la musique industrielle, après il va y avoir l'acid house, et puis il va y avoir un côté, évidemment, expérimental. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Oui. Justement, est-ce qu'on peut dire que l'un et l'autre à leur manière, l'un abordant plutôt le son et l'autre abordant plutôt le mot. Est-ce que c'est des gens qui sont plus en laboratoire constant que vraiment offrir un produit fini alors à un public? Est-ce qu'on peut parler d'expérimentation jamais finie et qui, à un moment, sort dans les bacs à livres ou dans les bacs à...
Alors, ça, c'est une question qui est importante parce qu'à partir de la fin des années 50, donc à Paris, William Burroughs, il va y avoir un poète qui est Brian Gysin, donc, qui va couper au hasard des articles de journaux avec une lame Stanley, et il va se rendre compte, en remettant les articles de journaux dans le désordre, qu'il arrive à faire certaines phrases, qu'il arrive à recréer certaines phrases. Donc évidemment, c'est du collage, hein, c'est quelque chose qui a été fait bien avant lui par les dadaïstes. Mais à partir du moment où ça va être récupéré par William Burroughs, en particulier dans les années 60, l'idée, ça va être de justement une démocratisation de cette stratégie d'écriture qui va donc être le cut-up. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Genesis Peerage, c'est-à-dire vraiment le fait qu'il y a une réappropriation de l'art, en fait, d'une part de William Burroughs en tant qu'écrivain et de Genesis Peerage en tant que musicien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu une influence sur les punks de manière très différente pour les deux, et même si évidemment c'est contestable, c'est le rapport à la création, en fait. C'est deux artistes qui n'ont cessé de dire aux gens autour de lui que eux-mêmes étaient artistes et qu'ils avaient la capacité de créer. Et ça, c'était quelque chose de relativement puissant, je pense, dans leurs œuvres respectives, il me semble.
Est-ce que tu peux expliquer le choix du titre de ton livre?
Alors, tout à fait. Je pense que... Alors déjà, je l'ai tiré de Monsieur Test, de Paul Valéry. Alors je pense que il y a très peu de temps, je suis allé à la poste pour l'envoyer à un auteur, et le postier m'a dit je l'ai pas lu, mais c'est un super titre. Et je lui ai dit c'est vrai. Voilà, donc déjà c'est un super titre. Et en fait, effectivement, il y avait quelque chose de il y avait un point commun, on va dire, dans l'œuvre de ces deux auteurs ou de ces deux artistes. Et ben c'est tout simplement qu'ils ont eu deux vies particulièrement cassées. Donc William Burroughs, il est connu entre autres pour avoir tué sa femme en lui mettant un verre sur la tête et en ayant fait ce qu'il appelait la routine de Guillaume Tell. Donc il l'a tué d'une balle entre les deux yeux. Donc après, selon les versions, c'est un accident. D'autres universitaires dont je tairai le nom disent qu'il l'a fait parfaitement exprès. Il y a son fils, William Burroughs Jr., qui est un auteur qui a écrit Speed, par exemple, qui est mort d'un cancer du foie, qui était alcoolique. Genesis Peerage, effectivement, il y a eu la maladie. Et puis, ces deux personnes, je pense, qui ont été très marquées par la mort et la mort des autres et la mort des gens autour d'eux qui leur ont permis, peut-être paradoxalement, de bâtir une œuvre aussi... cohérente. Donc la souffrance était réelle. Après, il y avait aussi cette idée de symétrie et de mathématiques qui me permettait de revenir à un certain nombre de théories de l'époque, y compris des théories mathématiques et linguistiques comme Korzybski. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment trop le temps de développer ici, mais... J'ai essayé de faire un livre qui était vraiment ancré dans son époque, c'est-à-dire à partir des années 60, et de voir à quel point un certain nombre de théories qui avaient été développées à l'époque, sociologiques, philosophiques, scientifiques, avaient été récupérées par un certain nombre d'artistes de la marge pour essayer de créer leur propre identité.
Est-ce que, alors c'est même pas est-ce que, c'est, je le sais, le, chez les deux il y a une obsession corporelle et un rapport au corps et beaucoup de questionnements sur l'identité sexuelle. Est-ce que tu peux nous en parler?
Non seulement, alors t'as totalement raison, il y a un rapport au corps qui est vraiment central à l'œuvre. Alors déjà... Pour ceux qui ne connaissent pas Genesis Burridge, il a fini sa carrière juste avant de mourir en se faisant poser des seins pour essayer de ressembler le plus à sa compagne. Et il a commencé à développer une théorie du genre que lui appelait le pandrogyne, c'est-à-dire le fait d'essayer de créer une créature mi-homme, mi-femme. C'est parfois vaseux, parfois très intelligent, et c'est entièrement inspiré de la théorie du cut-up littéraire de William Burroughs, c'est-à-dire de couper et de recomposer. Donc il y a ça du point de vue de Genesis Burridge. Maintenant, du point de vue de Burroughs, Burroughs c'était quelqu'un qui était aussi de son époque. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était homosexuel, qui détestait les homosexuels. Il pensait qu'il n'y avait rien de pire qu'un PD. Il détestait les PD. Il était homosexuel. Il était vraiment dans un milieu de la Beat Generation où il y avait un problème qui n'a jamais été résolu autour de l'homosexualité, puis autour de la misogynie, parce que c'est quand même un thème qui est extrêmement important chez eux. Donc chez Burroughs, il y avait une sorte de mal-être, je pense, qui lui a permis d'essayer de réfléchir à ce que c'était que l'identité sexuelle, avec une misogynie vraiment complètement noire de la part de Burroughs, vraiment, qu'il faut absolument pas masquer aujourd'hui, même dans le livre.
Alors, comme tu l'as souligné, chez Genesis Burroughs, d'abord, il y a une femme qui a été extrêmement importante dans son premier groupe, Framing Crystal, mais une femme qui l'a aussi accompagnée dans sa vie. Burroughs, il a quelqu'un comme ça dans sa création et dans sa vie intime, ou c'est finalement, malgré le fait qu'il ait une femme, est-ce que c'est un grand solitaire ?
Déjà, il y a eu le fait que, enfin, la femme que tu mentionnes pour Genesis Burridge, c'est Cosi Fanny Tucci, qui me fait la gentillesse quand même de donner une photo. Donc, je la remercie. Pour Burroughs, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, il y a eu la mort de son épouse, Joanne, qui a été. Après, il faut remettre ça en perspective, c'est ce que lui disait, hein, donc ce n'était pas forcément quelque chose de véridique. En tout cas, il valide cette théorie, c'était que la mort de sa femme lui avait permis, entre guillemets, voilà, permis de devenir écrivain. Ça avait été un déclencheur chez lui. Maintenant, il y a eu un certain nombre d'influences et d'amour qui ont été importantes pour lui. Ça a été, je pense, d'une part Allen Ginsberg, parce qu'il a toujours voulu être l'amant d'Allen Ginsberg. Je pense qu'ils ont couché ensemble une fois, manifestement. Et puis il y avait le poète Brian Gysin, dont il était complètement amoureux, mais qui n'a jamais voulu céder à ses avances. Donc en ce qui concerne William Burroughs, c'était davantage des hommes.
Est-ce que tu évoquais le fait que Genesis Burroughs a finalement mis en expérimentation des choses qu'avait conçues intellectuellement Burroughs? Donc le fait que Orridge connaissait l'œuvre de Burroughs ne se pose pas. Dans l'autre sens, est-ce que Burroughs connaît l'œuvre de Orridge, et est-ce que d'ailleurs ils se sont rencontrés, ou est-ce que c'est uniquement toi qui les fait se rencontrer à travers ce livre?
Alors, Burroughs et Orridge, ils se sont rencontrés à plusieurs occasions. Il y a des cassettes qui sont sorties d'entretiens croisés. Je ne sais plus si c'est chez Cold Spring. Non, je l'ai noté, mais acheté mon livre. Mais je m'en souviens pas. Oui, je crois que c'est chez Cold Spring, avec des interviews croisées entre William Burroughs, Genesis Burridge, et puis Brian Gysin. Et puis il y a eu surtout le numéro de Research qui est sorti, là encore, qui permettait de croiser les influences d'une part de William Burroughs et d'autre part de Genesis Burridge. Alors, Orridge a connu très tôt les romans de William Burroughs. Il était adolescent ou post-adolescent. Encore une fois, Orridge, c'est quelqu'un qui aime énormément mentir. exactement comme William Burroughs, il est allé à bonne école. Donc c'est difficile de savoir exactement les circonstances de cette rencontre. Burroughs, c'est différent. Burroughs, il a donc connu Orridge, mais ce qui était différent, c'était qu'il n'était pas toujours très raccord avec les théories d'Orridge. En fait, Orridge, au début des années 80, il a fondé un culte ou une secte, c'est selon, pour les Anglais c'est une secte, qui s'appelle Topi, The Temple of Psychic Youth, qui en fait était entièrement basé sur les textes programmatiques de William Burroughs, et William Burroughs a très rapidement essayé de prendre cette distance avec Topi, parce que c'était quelque chose qui lui plaisait pas beaucoup. Il faut savoir que Burroughs a découvert la magie ou la magie du chaos par le biais de Brian Gacy. Donc c'est quelqu'un qui croyait à la magie. C'est quelqu'un qui était très superstitieux. Donc Orridge a poussé cette expérience de la magie un petit peu plus loin. Donc Orridge se voyait lui-même magicien avec un certain nombre de rituels, de rites, de d'enchantements. Et Burroughs a assez rapidement pris ses distances avec ce genre de choses. Ça lui faisait un petit peu peur, d'autant plus que Orridge, pardon, a eu des problèmes assez rapidement avec la justice là-dessus.
Genesis P. Orridge, il vient de l'art contemporain avant de décider de faire de la musique pas très grand public d'ailleurs, mais qui a quand même touché beaucoup, beaucoup de gens. Et puis Burroughs, dans l'écriture, encore une fois, un exercice quand même assez solitaire, où on peut ne jamais sortir de chez soi. Est-ce que c'est quand même des gens qui ont finalement une dimension de critique sociale ?
Ça, c'est une question piège. La critique sociale, oui, parce que je pense qu'il y a énormément d'écrivains, d'artistes qui, aujourd'hui, même s'ils sont des artistes qui sont à la marge, vont se revendiquer de la critique sociale qui vient d'une part de Burroughs et d'autre part d'Orridge, qui est une version peut-être raffinée, entre guillemets, de ce qui a été fait par Burroughs. La critique sociale, c'est pour ça que j'ai dédié une partie de l'ouvrage à des entretiens, c'est qu'il y a un certain nombre de cinéastes et de musiciens et d'écrivains qui se revendiquent justement de cette critique sociale. Et pour moi, c'était intéressant d'avoir par exemple Bertrand Mandico, qui a adapté plus ou moins les Garçons Sauvages de Burroughs et qui s'est lui-même inspiré de ces textes programmatiques, y compris de manière politique. En fait, il y a une critique chez Burroughs de ce qu'il appelle la société de contrôle, qui est en fait une théorie qui a été reprise par Foucault puis par Gilles Deleuze pour expliquer parfaitement la société dans laquelle on vit, où en fait les gens surveillent entre eux, etc. Enfin, tout ce qui est la vie sur les écrans, les gens qui perdent leur vie à essayer de la gagner, c'était quelque chose qu'il avait complètement anticipé. Donc là, ces textes-là burroughsiens se retrouvent aujourd'hui chez énormément de musiciens et chez énormément de cinéastes, chez énormément d'écrivains, effectivement. Et c'est une critique éminemment sociale, c'est-à-dire que l'écriture est sociale. Le fait d'écrire est un acte social et la musique est un acte social. Voilà, de ce point de vue-là, je pense.
Pour donner une meilleure idée du contenu de ton livre, où est-ce que tu as voulu emmener ton lecteur, hein ? Parce qu'on peut faire 1000 livres en fait sur ces deux personnes.
Je crois que j'ai essayé de naïvement, je crois que j'ai essayé d'être honnête, c'est-à-dire être honnête, c'est essayer d'expliquer comment... William Burroughs, je pense, est un des artistes les plus importants du XXe siècle, en ce qui me concerne. En quoi Genesis P. Orridge est un personnage extrêmement puissant dans sa façon de penser, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de composer. Et puis surtout, ce que je voulais faire, quand je parle d'honnêteté, c'est que vous avez énormément de livres... sur Burroughs, parce que Burroughs, c'est un objet de mode maintenant, et je pense que Genesis P. Orridge, elle devient également. Je pense qu'il y a un effet d'agiographie, c'est-à-dire que vous avez des artistes qui sont seulement considérés comme sous l'angle de leur génie. Je voulais également voir les failles qu'il y avait chez ces artistes, c'est-à-dire arrêter de dire à quel point ils étaient formidables, mais d'étudier et d'analyser, au fait, dans ce cas-là, leurs échecs. Parce que je pense que c'est aussi des gens qui sont intéressants par leurs échecs, par tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, par ce qu'ils n'ont pas réussi à penser. Et j'espère que c'est quelque chose que j'ai fait avec ce livre, il me semble.
Sur les questions de genre, est-ce que dans les cercles, on va dire, autour de l'homosexualité, de la transsexualité, de toutes ces réflexions sur le corporel et la sexualité dans le social, est-ce que ces deux personnes sont finalement des gens connus et de référence dans des cercles universitaires ou militants ou culturels, ou finalement ils restent finalement assez marginaux pour ces cercles-là ?
Je pense qu'ils sont marginaux pour deux raisons, parce que déjà, William Burroughs a tellement répété deux choses, c'est-à-dire que ça va pas faire vendre mon livre, hein, je pense, je devrais m'arrêter là, mais je pense qu'il a tellement répété ça, le fait que les femmes étaient, je cite, des animaux inférieurs, et qu'il détestait les homosexuels tout en étant évidemment homosexuel lui-même.
Ça fait qu'il restait pas grand monde.
Et puis ça fait que je pense que je suis pas sûr que les cercles homosexuels autour de lui, à l'époque, y compris à San Francisco, l'est vraiment adoubé. Pour Genesis Burridge, je pense que c'est devenu beaucoup plus important, je pense, mais ça reste un discours qui est profondément burroughsien dans la récupération des textes programmatiques. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit, entre autres, dans les films de Bertrand Mandico. Oui. Je pense que les références qu'il peut faire sur le corps, la transformation du corps, y compris de fonder un nouvel érotisme, voire une nouvelle pornographie, est quelque chose de profondément burroughsien et de profondément neuf. Ce qui est intéressant dans les entretiens que j'ai pu avoir avec lui, c'est que justement, il reprenait à son compte une certaine philosophie burroughsienne, en tout cas ses textes programmatiques, et en même temps, il en faisait quelque chose de neuf, c'est-à-dire qu'il enlevait tout ce qui était misogyne. Parce que déjà, ces films ne sont pas misogynes, mais il y a un aspect féministe qui est important pour lui. Et entre autres, on était arrivé à la conclusion que sa version des Garçons Sauvages était autant burroughsienne qu'influencée par Wittig, ce qui était quand même quelque chose d'assez inédit.
Bon, t'as parlé de la dimension sociale de ces deux personnes, du travail de ces deux personnes. Je sais que t'es quand même très attaché, que t'intéresses beaucoup l'histoire révolutionnaire et les projets révolutionnaires. Est-ce que ces deux personnes ont une conscience de classe, ou est-ce que la lutte des classes est importante pour eux, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est totalement sous le tapis pour ces deux personnes ?
C'est une question qui est importante pour Burroughs, parce que déjà à la fin des années 50, dans le milieu auquel il appartenait, qui était un milieu intellectuel, on va dire bohème, en étant complètement caricatural, de toute façon il y avait une discussion sur l'aspect révolutionnaire, ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel. C'est un livre, je pense, qui essaie de revenir sur l'aspect marxiste de cette pensée, encore une fois qui est critiquable, ou néo-marxiste ou post-marxiste. Le problème étant qu'on a souvent fait de la Beat Generation un mouvement de gauche révolutionnaire, anti-système, ce que ça n'était pas, en fait. Jack Kerouac, par exemple, était quelqu'un... Il était parfaitement misogyne, il était parfaitement homophobe, et il était absolument pas de gauche. Donc tu as toute cette image du hippie qu'on a pu faire, qui est devenue l'image... qui a été récupéré par la droite, hein, du beatnik, c'est quelque chose qui est complètement à reprendre et à remettre en perspective. Donc évidemment, il y a eu un projet révolutionnaire, mais qui s'est développé dans l'art, en fait. Et ça, je pense que à une époque, les années 60, où vous avez énormément de philosophes, de scientifiques, c'est dans les années 70, il va y avoir, donc un petit peu plus tard, il va y avoir tous les philosophes, les structuralistes français qui vont être traduits en anglais. Au moment où on commence à réfléchir à justement ce que c'est que le post-marxisme, il va y avoir William Burroughs qui ne va pas du tout être dedans, et qui en fait va réfléchir à ce que c'est que qu'est-ce que l'art peut nous apporter concrètement pour transformer notre vie au quotidien. Comment est-ce qu'on peut détruire la société avec l'art? Comment est-ce qu'on peut détruire la société avec les mots? Et comment on peut détruire la société avec de la musique ou de la non-musique? Ça, c'est Genesis Burridge. Donc en fait, je pense que c'est dépasser l'aspect révolutionnaire. Je pense que c'est du post-marxisme.
Bah écoute, je vais te remercier. Je vais apporter juste une petite précision pour des gens qui connaîtraient pas vraiment la musique industrielle et qui se demanderaient, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le punk? D'abord, le contexte est exactement le même, puisque les deux sont à peu près contemporains. En fait, les deux ont rompu avec le rock à papa, on pourrait dire, quoi, avec une espèce d'inclure du bruit dans la création musicale. Bon, la musique industrielle est plus, je dirais, conceptuelle et radicale. D'abord, il y a eu plein de croisements quand même entre les deux milieux. En Allemagne, Einstein, Zeid, Neubauten, c'est des gens qui ont été punk avant de s'axer sur une création de musique industrielle. Et puis, pour donner un petit exemple par rapport... Alors, William Burroughs fait une figure qui a compté pour beaucoup de gens dans le punk. Je crois que le côté haine de soi, misanthropie, un peu hors la loi, a beaucoup plu, y compris aussi son écriture. Et pour donner... Bon, il y a un exemple fameux, c'est Nirvana, qui est quand même vient du punk... avait quand même une certaine passion pour Burroughs. Et par exemple, il y a un groupe anglais punk de la deuxième génération qui s'appelle Discharge. Le chanteur allait à l'époque, au début des années 80, dans les manifs antinucléaires, contre la vivisection, toutes sortes de manifs contestataires qu'il pouvait y avoir. Il prenait tous les tracts, il prenait tous les slogans qui lui semblaient vraiment les plus choquants, il découpait. Et il collait ça les uns derrière les autres. Il avait toute une boîte avec plein. Il en choisissait quelques-uns. Il collait. Il rajoutait un ou deux mots par-ci par-là pour essayer un peu de que ça ait du sens. Et les textes de Discharge, en tout cas ceux du premier album, sont entièrement conçus comme ça. Il a écrit quasiment pas une ligne. Et bon, ça a quand même rapport avec le cut-up, quoi. Donc, alors, est-ce qu'à l'époque, le chanteur qui avait l'air plus intellectuel que le reste du groupe connaissait William Burroughs, j'en sais rien, mais en tout cas, il y arrivait quelque chose qui est un peu semblable. Il pouvait y avoir, moi je crois beaucoup au bain culturel, c'est-à-dire on ne connaît pas forcément, mais on a quand même entendu parler un petit peu. Et quand j'ai rencontré le guitariste de Discharge, il m'a dit, moi je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais maintenant je vois totalement en quoi il y a des liens très très forts. Voilà.
Kurt Cobain a sorti un album avec William Burroughs, ouais. Reprise des Cold Dim, ouais. 1995.
Et bien, longue vie à ce livre.
Longue vie à ce livre. Merci.
Eh bien, merci beaucoup. On passe directement à Baptiste et après on fait les questions, du coup. On fait comme ça, ouais. On enchaîne.